sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin. Voilà, nous sommes rassemblés en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire et nous sommes rassemblés aussi par Bernard et Nathalie, puisque c'est aussi par amitié, par fraternité pour eux que nous sommes réunis pour ce jour de fête. Alors, j'ai pensé qu'aujourd'hui, pour le message, ça serait bien de vous parler... Ben, du baptême, tiens. C'est une idée, hein, c'est drôlement original hein, aujourd'hui. Non, c'est vraiment le moment. De toute façon, c'est toujours, tous les dimanches, on devrait presque parler du baptême, de ce que le Seigneur veut faire en nous, du renouvellement, de la plongée dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors, pour vous parler du baptême, je vous invite, si vous avez votre Bible, si vous avez envie de l'ouvrir au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Cet entretien de Jésus avec Nicodème. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. » Vous en avez peut-être l'habitude, frères et sœurs, mais vous rendez-vous compte quand même que nous allons vivre aujourd'hui quelque chose d'étrange, complètement étrange dans notre monde. Imaginez que parmi nous, cet après-midi, se trouvent, et ce sera peut-être le cas après tout, des gens complètement étrangers à la foi chrétienne. Et puis évidemment, ils sont très nombreux dans notre société. Ils risquent fort de se demander ce que nous faisons à notre ami Bernard. Mais arrêtez, vous allez lui faire mal! Il va boire la tasse, il va prendre froid. Qu'ont-ils ces gens donc à s'amuser à le faire couler comme ça dans cette piscine? C'est quand même très étrange pour quelqu'un qui n'est pas prévenu. Et quand même, pour ceux qui s'alarmeraient de nos pratiques, je précise quand même que c'est Bernard lui-même qui a choisi, en connaissance de cause, de recevoir ce baptême, de se faire plonger, puisque c'est la traduction du mot grec qu'utilise le Nouveau Testament, plonger, c'est baptiser en grec, de se faire plonger dans la piscine de Jean-Louis et Raymond. Quel projet saugrenu lui est passé par la tête? Comment aujourd'hui un homme d'un âge mûr, hein Bernard, on peut dire comme ça, hein, d'un âge mûr, peut-il encore avoir l'idée de plonger dans les eaux du baptême? Alors, frères et sœurs, si vous cherchez une réponse raisonnable, conforme aux idées qui circulent dans notre monde, vous perdez votre temps. La réponse ne vient pas des opinions en vogue, ni même d'une réflexion intellectuelle. La réponse vient d'une rencontre extraordinaire. Alors, s'il en est un qui passait du temps à réfléchir et à essayer de comprendre les choses, c'est bien Nicodème. Nicodème, un pharisien, un spécialiste de la Bible juive, il avait même consacré sa vie à cette étude. et à essayer de mettre en pratique ce qu'il comprenait très honnêtement, très sincèrement. Cependant, Nicodème aussi avait été interloqué par les gestes et les miracles de Jésus. Il comprenait bien que c'était des signes de quelque chose d'important. L'évangile de Jean, quand il parle des miracles, emploie le mot de signe. Nicodème comprenait bien que ces gestes de Jésus signifiaient quelque chose d'important. Mais il ne voyait pas bien de quoi. Nicodème était dans la nuit, hein, pas seulement parce qu'il faisait nuit, il était vraiment dans une certaine nuit spirituelle, dans le flou, dans le brouillard, dans le fog. Jésus aurait très bien pu faire partie de son monde d'intello. Nicodème a remarqué que Jésus est instruit, que ses paroles même sont accréditées par ses miracles. Nicodème va même jusqu'à considérer Jésus comme un maître, comme un rabbin. Quelle marque de respect de la part de Nicodème. C'est vraiment un compliment. Mais ce savant pharisien aimerait bien en savoir plus. Rabbi, maître, nous savons que tu es un maître, un docteur, qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il voudrait comprendre. Il fouille dans sa mémoire, dans les livres qu'il a lus, il réfléchit, et quelque chose lui échappe. La réponse à ces questions est pourtant là, tout simplement, devant lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Nicodème pourrait le reconnaître, mais pour l'instant, il lui manque comme un déclic. Un déclic. C'est pourquoi Jésus ne répond même pas à ses interrogations. Jésus aurait quand même pu répondre à sa question. D'ailleurs, ça nous aurait rendu service aussi. Non, Jésus ne répond même pas directement à ses interrogations. Une argumentation resterait ici toujours insuffisante. Nicodème, avec ses raisonnements, n'est pas sur la bonne voie. Dieu est au-delà de notre intelligence, bien au-delà. D'où l'ironie de Jésus, un peu plus loin. « Mais tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. » Étrange, vraiment. Il convient de lui indiquer un autre chemin de vérité, une autre piste de discernement. Voyez, c'est un petit peu comme le baptême. Beaucoup de savants se sont évertués à déchiffrer, historiquement, archéologiquement, ethnologiquement, d'où pouvait provenir le baptême de Jésus. Alors on a pu établir des parallèles intéressants d'ailleurs avec d'autres rites proches. Par exemple, le bain d'eau des Esséniens qui étaient des moines juifs solitaires installés près de la mer Morte à l'époque. Ou bien le baptême de Jean le Baptiste, bien sûr. C'est le rapprochement le plus évident. Ou bien les purifications religieuses juives. Ou bien le baptême par lequel passaient les païens qui se convertissaient au judaïsme. Ils avaient une sorte de baptême, ces gens-là. Ou bien alors, plus loin, la plongée des hindous dans le Gange. Ou bien encore, les ablutions des musulmans avant les prières à la mosquée. Tout ça a une parenté. L'eau est évidemment un symbole universel. Mais toutes ces recherches, ne nous apprennent pas grand-chose, finalement, sur le baptême chrétien. Nous sommes en présence d'un événement absolument unique, que nous ne pouvons comprendre sans poser directement la question à Jésus. En ce sens, notre bon Nicodème nous a rendu un grand service. En fait, un baptême pourrait faire partie de ces signes, justement, qui étonnaient Nicodème. Un baptême, frères et sœurs, c'est tout simplement un miracle. Et ce qui est à l'origine du miracle d'une demande de baptême, eh bien, c'est, vu dans le texte, le vent. le vent. Pneuma, en grec, pneuma, pneumatique, pneumologie, pneumologue, etc. Hein, le vent, c'est un mot grec du Nouveau Testament qui peut désigner le vent, le souffle et même l'esprit. L'esprit. Et déjà dans l'Ancien Testament, le souffle de Dieu, le vent de Dieu, l'esprit de Dieu faisait de grandes choses. Il fut à l'origine de la création du monde, nous dit la Genèse. Il inspirait Moïse. Il révélait au prophète Élie la présence de l'Éternel. Un souffle ténu, une brise légère. Il redonnait aux ossements humains desséchés devant le prophète Ézéchiel. Il redonnait vie à ces ossements humains. Le vent, on ne le voit pas. Mais il est pourtant là, bien là, agissant. Comme le Fils de Dieu, finalement, présent devant Nicodème. Nicodème qui ne voit pourtant qu'un rabbi nazaréen. Comme la parole de Dieu qui est révélé dans l'incognito de cet humble prêcheur de Galilée. On ne la voit pas, cette parole, et pourtant, elle est bien là. Comme le Messie d'Israël et le Sauveur du monde, méconnaissable sur la croix du Golgotha. Qui était-il, ce Jésus de Nazareth? Quelle réalité se cachait derrière ses paroles? Derrière son autorité, derrière ses gestes, sa bonté, ses miracles, et même derrière sa mort. Nicodème avait probablement les mêmes sentiments que les premiers disciples de Jésus, qui ne comprenaient pas très bien quel était cet homme qu'il suivait. Ce n'est pas pensable. Comment peut-on imaginer que le Christ de Dieu s'abaisse au point de prendre la dernière place et de mourir comme un maudit sur une croix? Ce n'est pas pensable. Comment, alors, est-il possible de le reconnaître? Comment savoir que en Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient nous visiter? Mais c'est incroyable. Depuis Nicodème, ces questions ont agité des millions de personnes. Et notre ami Bernard n'y a pas échappé. Sa quête spirituelle a été longue et passionnante, belle aussi, notamment parce qu'elle fut partagée avec Nathalie. Bernard et Nathalie longtemps se sont interrogés, ont recherché la vérité avant de la découvrir en Christ. Et pour cela, il y a une seule raison, une seule solution. Le vent, frères et sœurs, le susurrement en nous de la voix de Dieu lui-même par le souffle de son esprit. Comme l'apôtre Pierre dans les évangiles en a fait l'expérience quand lui-même a reconnu en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a fait remarquer que cette confession de foi ne venait pas de toutes ses réflexions intellectuelles, qu'elle ne venait pas de lui. Jésus lui a dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Et donc l'Esprit de ce Père, le vent. Et nous alors, frères et sœurs, comment nous est-il possible de reconnaître Jésus vivant aujourd'hui? Ah, je vous vois venir avec vos explications. Parce que nous avons eu des parents chrétiens, certains. Parce que un jour, ça s'est trouvé comme ça, nous avons assisté à une rencontre d'évangélisation. Parce que une personne a croisé notre route et nous a fait découvrir l'Évangile. Parce que nous avons rencontré un pasteur qui nous a expliqué beaucoup de choses. Parce que, ça c'est vrai pour vous tous, parce que nous fréquentons une super église. Que sais-je encore? Or, ces situations, pour importantes qu'elles soient, et tout cela est important, bien entendu, ne suffisent pas à faire naître la foi. On pourrait mettre deux personnes, l'une à côté de l'autre, dans la même campagne d'évangélisation, dans la même église, en écoutant le même pasteur, l'une croira, l'autre ne croira pas, forcément. Ces situations sont des circonstances de la vie plutôt favorables, il est vrai, on en a besoin, elles sont utiles, elles sont nécessaires même, et les personnes évoquées, les parents, les évangélistes, les anciens de l'Église, les pasteurs, ne sont que des témoins, des serviteurs de Dieu, à un moment donné, qui ont été mus, en tout cas espérons-le, probablement par le vent de l'Esprit. Oui, le vent a aussi agi à travers eux. Mais il faut encore autre chose pour reconnaître que leurs paroles pouvaient annoncer le Dieu vivant. Il faut ce vent, il faut ce souffle qui a pénétré l'existence de Bernard presque en même temps que celle de Nathalie d'ailleurs. Et Jésus nous dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Étrange parole de Jésus, qui semble bien loin des préoccupations de Nicodème, mais qu'est-ce qu'il a à nous parler du vent à ce moment-là, Jésus. Et pourtant, c'est la seule réponse possible. L'apôtre Paul écrit, 1 Corinthiens 12:3, « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit-Saint. » Le vent, encore. Seul l'Esprit, le souffle saint de Dieu, dit encore Paul, Romains 8, 16, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand l'Évangile nous est annoncé, quel que soit le chemin qu'il ait pris pour venir jusqu'à nous, c'est toujours l'Esprit de Jésus, son vent, qui nous inspire pour nous permettre de reconnaître sa parole, de reconnaître même sa présence, la présence de Jésus, et puis d'acquiescer. C'est lui seul, le pneuma, qui a permis à Bernard, un jour, de dire « Oui, Amen, oui, Amen, je crois », en prenant conscience de tout ce que Jésus a fait pour lui. Voyez, frères et sœurs, la foi est un miracle, comme une naissance. Jésus le dit d'ailleurs dans l'Évangile, « Si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, les petits-enfants même, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et pour exprimer à Dieu le « oui » d'un enfant, nous avons besoin de l'Esprit de Jésus. Alors Nicodème n'est pas loin de l'avoir compris. Quand il dit par exemple, au verset 4, toujours de ce chapitre 3 de Jean, « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Il a bien compris ce sens de la naissance. Un autre intellectuel que Nicodème, plus proche de nous celui-là, le psychanalyste que vous connaissez tous très bien sûr, Carl Gustav Jung, il est mort en 1961, certains d'entre nous c'est du contemporain, pour d'autres un peu moins. Jung rapprochait de la vie intra-utérine le rite de l'immersion baptismale. Intéressant. Encore une autre explication parmi toutes celles que je vous citais tout à l'heure. Mais oui, précisément, il convient d'expérimenter une nouvelle naissance. Une naissance aussi fondamentale que la première, aussi merveilleuse et miraculeuse que la première, et possible à tout âge, effectivement. Jésus le dit clairement à son interlocuteur perplexe. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La première naissance se vit selon la chair, la seconde et la nouvelle naissance se vit selon l'esprit, selon le souffle de Dieu, grâce au vent. Et elle commence, cette naissance, par ce miracle qu'est la foi. Le miracle de la foi, qui est comparable aux yeux d'un enfant qui s'ouvre pour la première fois sur un regard aimant. Imaginez, un enfant qui s'est endormi, qui est pris dans des bras, d'un coup qui se réveille et qui découvre un visage qu'il ne soupçonnait pas. C'est exactement ce qui se passe pour nous quand nous découvrons, d'une certaine manière, le visage de Dieu, le visage de Jésus-Christ, par la foi. La foi, c'est-à-dire quand l'Esprit du Seigneur insuffle en nous la conscience de la présence de Dieu et de la vérité des paroles de Jésus. La foi inaugure une existence entièrement nouvelle. Dire oui à Jésus, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, puisque c'est désormais laisser le Seigneur régner sur notre vie. Parfaitement, nous le savons bien, mais en tout cas, lui, il vient pour régner sur notre vie. Naître d'en haut, d'eau et d'esprit, nous dit l'évangile de Jean. Le signe de l'eau est absolument génial. C'est bien pour ça qu'il est si universel, d'ailleurs. L'eau exprime la vie reçue de Dieu. Il faut bien de l'eau pour que les plantes restent belles. L'eau exprime la vie reçue de Dieu. L'eau rend visible le lavage, le karcher, le pardon des péchés accordés en Jésus. L'eau évoque une nouvelle naissance, comme le disait le psychanalyste, la vie nouvelle à sa suite. Et enfin, l'eau proclame même la résurrection, la vie nouvelle. L'apôtre Paul dit en Romains 6, versets 3 à 4, que baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous pouvez traduire en français, plongé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés. Hein, ça veut traduire littéralement. Par le baptême, par la plongée en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Le baptême comme signe de mort et de résurrection. Le baptême reçu dans la foi nous met au bénéfice de la mort de Jésus et de sa résurrection. Autrement dit, il signifie que nous sommes sauvés, définitivement sauvés. Désormais, Bernard se sait pardonné et peut regarder l'avenir, quel qu'il soit, avec confiance, parce que, nous dit la Bible, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand je parle de regarder l'avenir avec confiance, c'est pas seulement l'avenir lointain, après la mort, auquel cas le baptême de Bernard aurait encore pu attendre, mais c'est dès maintenant, parce que Jésus est mort et ressuscité, parce que nous savons qu'il est vivant auprès de nous, parce que nous avons découvert par la foi que nous sommes habités par son esprit et que nous pouvons dès maintenant vivre avec lui et le laisser régner sur notre vie. Bernard est déjà entré dans la résurrection. Vous saviez que Bernard était déjà ressuscité, et pas qu'il a un visage de ressuscité, mais vous aussi. Nous sommes tous des ressuscités. C'est ce que nous dit Paul. Nous sommes déjà assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Parce que nous vivons en Christ. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu en Jésus de nous sauver. Bernard est donc né de nouveau par cette confiance qu'il place en Jésus et surtout donc, devrais-je dire, par la confiance que le Seigneur place aussi en lui, par son amour pour lui, cet amour que Bernard a découvert. Il est enfant de Dieu. Et par la grâce du Seigneur et par la foi, sa vie a été transformée, convertie. Qu'on le veuille ou non, la foi, ça change la vie. On peut avoir l'impression de ne pas s'être beaucoup amélioré depuis notre conversion, d'avoir toujours les mêmes travers, des choses qui nous encombrent dans l'existence, c'est possible, ça peut changer par la grâce de Dieu, mais même si ces choses subsistent, notre vie a de toute façon pris une orientation nouvelle parce qu'elle regarde à Jésus-Christ. Quand nous décidons de suivre notre Sauveur, nous marchons sur un chemin nouveau. Et, donc je le disais, pour Bernard, comme pour nous tous, la vie éternelle peut commencer. C'est quoi la vie éternelle, sinon de partager la vie de Dieu, d'être avec le Seigneur pour toujours? Eh bien, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Nous sommes déjà dans la possibilité de vivre la joie d'appartenir au Christ vivant, au Christ vainqueur, et cette joie n'aura pas de fin. Alors, frères et sœurs, Nicodème a-t-il reçu les réponses qu'il souhaitait? Je ne sais pas comment il est reparti, hein. Enfin, il semble quand même que oui, parce que plus tard, on le voit en Jean 7, 51, plus tard, il aura le courage de prendre la défense de Jésus, et il en fallait du courage. Sa nuit s'est dissipée, en tout cas largement, et la lumière de la foi a sans doute pénétré son existence. À ses risques et périls, Nicodème a cherché à rencontrer Jésus, à le connaître. Et Jésus, plus tard, priera son Père avant de mourir, en pensant à tous ceux qui le chercheront, comme Nicodème, comme Bernard, et à tous ceux qui le suivront. Et Jésus dira, c'est Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette connaissance, bien sûr, ne sera jamais achevée ici-bas. Cette connaissance qui est relation, hein, qui n'est pas connaissance seulement de la tête, mais surtout connaissance du cœur. Et par ce baptême, Bernard manifeste visiblement, solennellement, en s'appuyant sur les promesses du Seigneur, qu'il tient à poursuivre sa longue et belle marche à la suite de Jésus. C'est une marche exigeante, parce que suivre Jésus est difficile. Cela ne va pas de soi dans notre monde. Mais c'est une marche joyeuse, parce qu'elle se vit dans la lumière, elle se vit dans l'amour de Dieu et dans l'amour fraternel. Dans l'assurance de se savoir éclairé, accompagné et sauvé. Jésus ressuscité disait à ses apôtres, après leur avoir confié la mission de faire des disciples et de les baptiser, il leur disait « Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. » Nous prions. Merci Seigneur pour le souffle de ton esprit qui vient habiter au plus intime de chacun de nous, pour nous éveiller à la découverte émerveillée de ta présence, de ta vérité, de ta lumière, dans la Bible et sur le chemin de notre vie. Merci parce que tu as éclairé notre frère Bernard avec Nathalie et que tu continueras à les accompagner sur le chemin de la vie avec toi, sur le chemin de cette joie et de cette paix que tu nous promets. Nous te les remettons tout particulièrement. Et merci Seigneur, parce que pour chacun de nous, tu as daigné te découvrir. Tu as daigné pour chacun de nous ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions avoir ce regard émerveillé qui te découvre, qui croit en toi et qui a le désir de te suivre jusqu'au bout. Merci. En Jésus, tu nous donnes la grâce de vivre dès maintenant la vie éternelle avec toi, de vivre désormais dans la mouvance du vent, du souffle de ton esprit. Tu nous donnes la grâce de naître de nouveau, de naître d'en haut et de pouvoir connaître une vie nouvelle. Béni sois-tu, notre Dieu, et accorde-nous de faire en sorte que rien jamais ne puisse nous séparer de toi. Amen.